France Info.
20h, 21h, France Info, les informés, Noé Da Silva.
Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Et tout d'abord, bon courage à tous les bacheliers, mais aussi aux parents, bien évidemment. Une grève de la surveillance plane pour demain. Quel avenir pour cette épreuve créée en 1808 ? Trois lettres également à la une de ce dimanche, le SNU, Service National Universel, un sous-service militaire. Et puis la politique du jour avec le Rassemblement National qui se rassemble en vue des municipales en faisant du pied aux Républicains. La République En Marche, elle, de son côté, n'est peut-être pas vraiment en marche vers les prochaines élections. Les candidats, par exemple, à Paris, eh bien, ils se sont affrontés aujourd'hui par médias interposés. Les informés, ce soir, avec nous autour de la table pendant une heure. Bonsoir Mireille Lemaresquier.
Bonsoir.
Journaliste, ancienne chef du service Monde ici à France Info. Christelle Bertrand, journaliste politique du groupe La Dépêche. Bonsoir.
Bonsoir.
Gilles Bornstein, éditorialiste politique de France Télévisions. Bonsoir Gilles.
Bonsoir.
Isabelle De Golemin, rédactrice en chef du journal La Croix, notre partenaire ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous à la radio et à la télévision sur le canal 27. Commençons donc par une pensée ce soir pour les plus de 740 000 candidats au baccalauréat. Dernières heures avant les épreuves de philo, mais aussi les épreuves de français, demain lundi. À la boule au ventre traditionnelle s'ajoute celle concernant la grève demain. C'est la faute au ministre de l'Éducation nationale, nous dit Marianne Corrèze du syndicat SNES-FSU.
Jamais le ministre n'a accepté d'ouvrir des discussions. Il n'a jamais voulu entendre nos analyses sur les risques d'une explosion des inégalités au travers de la réforme du lycée et du bac. Le ministre Blanquer porte une lourde responsabilité à la situation de blocage dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
Alors, est-ce que c'est justifié de faire peser comme ça un risque sur les épreuves de demain quand on sait que déjà... Je ne sais pas si vous avez tous votre bac autour de la table. Oui, oui. Quand on sait l'angoisse que c'est, voilà, est-ce que c'est bien sérieux de faire peser ce risque, Isabelle De Golemin ?
Non, c'est pas bien en fait. C'est pas bien. C'est pas bien parce qu'ils avaient sans doute d'autres moyens de le faire et que ça, c'est vraiment s'en prendre finalement un peu quelque part aux plus faibles et à ceux qui sont les plus vulnérables. Alors, en même temps, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on a toujours l'impression quand un gouvernement fait une réforme, de toute façon, les syndicats sont contre. Donc, on finit par se demander comment est-ce qu'on pourrait travailler de manière constructive dans ce pays à l'éducation nationale. Alors, c'est vrai que la réforme du BAP, qui prévoit effectivement une diminution des épreuves générales, 4 épreuves simplement générales.
À la place d'une dizaine.
Voilà. Et puis le reste en contrôle continu. Alors, de fait, les syndicalistes disent que ça va favoriser les inégalités. Mais, à mon avis, ils font fausse route parce que déjà les inégalités, elles existent, elles ne cessent de s'accroître. Donc c'est vraiment, en tout cas, c'est pas parce que tout le monde a le même bac aujourd'hui que les inégalités n'existent pas. Et puis peut-être que justement ce système de contrôle continu va permettre aux établissements de s'adapter un peu mieux aux conditions de leurs élèves, à leurs conditions sociales, etc. Donc je suis pas sûr qu'en plus leur motif soit pertinent. Et puis il était temps sans doute de mettre fin à cette espèce d'immense machine. On a tous effectivement ce souvenir un peu angoissant. Et le contrôle continu, quelque part, c'est plus juste d'un point de vue philosophique, c'est plus juste de contrôler de manière régulière sur un an, plutôt que juste un one-shot.
C'est un peu difficile. Gilles Bornstein, c'est la faute au ministre, ce manque de discussion, de concertation, comme l'a dit la syndicaliste tout à l'heure du SNES-FSU.
On a senti depuis le début que les syndicats, effectivement, étaient assez contre cette réforme. Pourtant, il n'a pas avancé masqué, le ministre. Il avait dit qu'il réformerait le bac. Moi, je pense que demain, ça va bien se passer, d'abord parce qu'on sent que justement, Jean-Michel Blanquer joue assez gros là-dessus et qu'il a mis les moyens en termes de personnel de substitution pour que ça se passe bien.
On a rappelé plus de profs.
Voilà. Et c'est vrai que les syndicats qui disent toujours que la gêne fait partie de la grève, oui, ça gêne les usagers, mais c'est comme ça si on ne gêne personne. Ça ne marche pas. Là, même chez les syndicats, on sent une certaine désunion et qu'un certain nombre ont dit on va se mettre tout le monde à dos et c'est vraiment pas le jour pour faire grève. Donc, je suis pas très inquiet pour les... Enfin, je peux être inquiet pour les futurs bacheliers ou non-bacheliers de demain, mais je pense que les épreuves se tiendront normalement. Quant à cette réforme du bac, moi j'ai du mal à trouver que c'est un crime contre la pensée. C'est vrai qu'il y aura plus de contrôle continu, c'est pas mal. Plus d'oral aussi, une certaine désacralisation de l'écrit. J'ai du mal à trouver ça totalement scandaleux.
Choquant,
et puis vous
scandaleux.
L'avez dit, voilà, tout doit un petit peu changer. Et il était temps de réformer cette vieille machine.
Et c'est aussi, Christelle Bertrand, une question de coût finalement. On parle de 80 euros en moyenne par candidat.
Oui, mais c'est la question que pose aujourd'hui, et ce que ne disent pas les syndicats, c'est la question que pose la réforme du bac, c'est que elle multiplie les épreuves en fait. Donc il y aura le contrôle continu, mais il y aura des épreuves tout au long de l'année. C'est 21 épreuves, je crois, sur 2 ans. Et donc ce que disent les enseignants, c'est on va avoir beaucoup plus d'épreuves à corriger. Ça va nous demander beaucoup plus de temps, et donc derrière, on veut plus d'effectifs, on veut un peu plus d'argent. C'est ça aussi qu'ils disent dans ce mouvement de demain. Alors après, je suis d'accord, le ministère a mis les moyens pour que les épreuves se passent normalement, donc il faut rassurer les candidats.
Tout
apparemment, tout devrait bien se passer, mais le débat n'est pas clos, loin de là, parce qu'il y a un vrai sujet, à la fois d'effectifs, financiers, et puis aussi, certains disent, il y a une sorte de désacralisation du bac. En faisant passer le contrôle continu pour une grande partie du résultat, en multipliant les épreuves au cours de l'année, c'est vrai qu'on n'a plus ce rituel, ce rite de passage presque, du baccalauréat, où tout le mois de juin était consacré à ces épreuves. Le jour des résultats, tout le monde se retrouvait, il y avait quelque chose quand même d'un symbole assez fort, qui risque de s'émousser un peu.
Mireille Le Maresquet, il faut aller plus loin, on supprime le bac?
Non, on ne peut pas le supprimer. Non. Mais je trouve qu'il y ait du contrôle continu, c'est une bonne chose. Je veux dire, on a toujours demandé plus de contrôle continu. C'est plus juste, c'est vrai, c'est plus juste. Et l'autre chose, c'est que moi, je n'ai pas tellement d'inquiétude pour demain. Les proviseurs ont dit qu'ils avaient les effectifs suffisants, qu'il n'y aurait pas de problème, etc. Mais gardez quand même un peu le côté sacré du bac. Et en même temps, le contrôle continu parce que c'est plus juste et puis parce que c'est plus de travail aussi pour les élèves.
Oui. Et puis parce qu'on peut tous avoir un problème le jour de l'épreuve.
Et
c'est vrai que parfois
il y a le facteur chance qui joue.
Est-ce que quelqu'un a un bon conseil à suivre avant de se rendre à l'épreuve, Isabelle de Golemin?
De bien dormir.
Bien dormir.
Arrêtez de réviser et vous dormez.
Tout le monde au lit. Après le rappel de l'info, signé Lauriane Delanoë.
Une femme entre la vie et la mort dans un coma artificiel ce soir. Son compagnon l'a aspergé d'essence et a tenté de l'immoler par le feu hier dans le Vaucluse à Cheval Blanc. L'homme de 49 ans écroué est mis en examen ce matin pour tentative de meurtre par concubin. Le ministre de l'Agriculture invite les arboriculteurs et viticulteurs à contacter leur assurance dès demain. Ceux qui ont perdu tout ou une partie de leur récolte à cause de la grêle hier en Auvergne-Rhône-Alpes, les états de catastrophe naturelle et de calamité agricole devraient être reconnus d'ici 2 jours. Il a mené la liste arrivée en tête aux élections européennes en France. Jordan Bardella, nommé vice-président du Rassemblement national aujourd'hui. Un conseil national du parti s'est tenu tout à l'heure à La Rochelle. Les excuses de la chef du gouvernement de Hong Kong, Carrie Lam, admet aujourd'hui avoir causé des conflits et des querelles avec le projet de loi sur les extraditions, projet suspendu. Des manifestants en masse encore aujourd'hui dans les rues, 2 millions de personnes d'après les organisateurs. Des avions militaires saoudiens et américains en survol au-dessus du golfe d'Oman aujourd'hui. Démonstration de force, une vidéo diffusée par l'Arabie Saoudite. Elle accuse à son tour l'Iran d'être à l'origine de l'attaque contre 2 pétroliers dans ce golfe cette semaine. La place du Capitole rouge et noir de monde cet après-midi. Les rugbymen du stade toulousain fêtés par des milliers de supporters après leur victoire hier en finale du top 14.
France Info, les informés. Noé Da Silva.
Rebonsoir, merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Les informés, toujours autour de la table, Mireille Le Maresquier, Christelle Bertrand, Gilles Bornstein, Isabelle de Golemin. Le SNU, c'est parti. Mais à quoi ça sert? 3 lettres pour Service National Universel. Une promesse de campagne du candidat Emmanuel Macron. Et c'est aujourd'hui que 2000 jeunes ont été accueillis dans des centres. L'origine de ce projet nous est exposée par Gabriel Attal. C'est le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale.
Aujourd'hui, on a des jeunes qui naissent et qui grandissent en France sans parfois jamais quitter leur environnement direct, avec leur quartier comme seul horizon, sans jamais rencontrer des jeunes qui viennent d'autres horizons. C'est d'abord pour cet enjeu de creuset républicain, de mixité sociale et territoriale qu'on fait le service national universel.
C'est bon pour la nation, la cohésion, le vivre ensemble, Gilles Bornstein.
Bon, je trouve que l'idée n'est pas mauvaise. C'est vrai que quand Gabriel Attal dit il y a des jeunes qui ne sortent jamais de chez eux, il faut créer un creuset républicain, qui peut être contre? Après, est-ce que le service national universel tel qu'il commence aujourd'hui ou demain va remplir cet objectif? J'en suis pas tout à fait certain. On a vu que les ambitions ont été très nettement ramenées à la baisse par rapport au projet initial. D'abord, c'était un projet militaire dont s'occupait le ministère de la Défense. La Gabriel Attal, il est sous l'égide de Jean-Michel Blanquer. Donc c'est clairement un problème d'éducation maintenant. Ça va coûter... Enfin, le ministre lui-même dit que ça va coûter 1,5 milliard. Je suis persuadé que ça coûtera beaucoup plus parce qu'il n'y a pas les infrastructures. Ce que des enfants se lèvent à 7 heures pour écouter la Marseillaise, je suis pas tout à fait certain que c'est comme ça qu'on va recréer le creuset républicain. Encore une fois, l'idée est bonne. Je trouve que c'est une sorte d'obsession d'Emmanuel Macron, dont on sent qu'il est très sensible au récit national, à la geste, à la liturgie républicaine. Il adore les cérémonies. Tout le monde n'est pas Arnaud Beltrame ou les militaires tués dans l'opération l'autre fois au Burkina, mais il faut que tout le monde ait son petit lever de drapeau. Donc voilà, il adore ça, Emmanuel Macron. Et il pense qu'on a tous besoin de regarder un drapeau français pour aimer notre patrie. Personnellement, j'en suis pas convaincu.
Isabelle de Golemin.
Moi, ça me rappelle un peu le scoutisme, mais bon, le scoutisme en plus de papa-maman. Non, je trouve que c'est pas très sérieux parce que voilà, on a 15 jours et 15 jours, donc en tout un mois, un petit mois pour une ambition qui est en fait bien plus importante. Et je trouve dommage que le gouvernement ne soit pas parti de ce qui marchait. Il y a quelque chose qui marche bien, le service civique. Exactement. Qui marche bien, qui a été mis par le gouvernement précédent.
C'est quoi la différence?
La différence, c'est que le service civique, vous êtes employé dans une association, vous servez pendant un an. L'association qui vous emploie reçoit des aides de l'État. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de place aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas assez de subventions données aux associations pour le service civique. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que la demande de jeunes est bien supérieure à l'offre. Il y a beaucoup de jeunes qui voudraient faire un service civique. C'est une première expérience. On devrait d'ailleurs le flécher plutôt pour les jeunes plus défavorisés, de façon à justement avoir cet objectif de mixité sociale. Donc je trouve dommage qu'on crée quelque chose d'autre alors qu'il y avait de quoi, en améliorant ça, faire un beau projet. Donc là, on est sur...
Dans le service civique, on porte pas d'uniforme, il y a un bel uniforme.
Mais dans le service civique, on sert la nation quelque part, on sert la France, on sert le bien commun, on travaille pour le collectif, le sens du collectif, donc ça, c'est intéressant. Et je trouve ça dommage, ça me paraît plus moderne et plus intéressant que ce qu'on est en train de
faire. C'est pas très moderne.
C'est pas tout à fait la même chose. Là, l'ambition du service national universel, c'est de mixer à la fois géographiquement les jeunes gens, socialement les jeunes gens, et de leur faire des choses qu'ils n'auraient pas forcément fait chez eux. Donc, c'est pas uniquement le lever des couleurs et chanter la Marseillaise, c'est aussi des courses d'orientation. Ils souhaitent que ce soit très axé sur les questions d'environnement, d'écologie. Donc, c'est aussi ouvrir peut-être des centres d'intérêt, lever des centres d'intérêt. Ils souhaitent par exemple que l'on puisse passer, ce sera pas encore en place immédiatement, le code de la route, ce qui peut être utile pour certains jeunes. Donc,
ça ressemble un peu à un sous-service militaire alors.
C'est un sous-service militaire sans le côté
militaire.
Ils ne souhaitent pas que ce soit très militaire.
Qu'est-ce qu'on fait pendant un mois?
Mais c'est mieux que rien, je dirais. Moi, j'ai suivi Gabriel Attal sur un déplacement dans un lycée quand il était encore en train de travailler le projet. Et il discutait avec des jeunes qui disaient, c'était du côté de Lille, et qui disaient, on n'a jamais quitté le département du Nord. Donc, ce qui va se passer, c'est que les jeunes d'un département iront forcément dans un autre département. Oui. Et à l'idée de quitter leur département, c'était une des choses qui les inquiétait le plus. Si on doit quitter chez nous, non, franchement. Et je trouve que c'est extrêmement important pour une forme d'ouverture d'esprit, quoi, d'aller ne serait-ce que 15 jours dans un autre département, voir la montagne, la mer, la campagne pour ceux qui n'y ont jamais été, ou la banlieue pour ceux qui viennent de milieux ruraux, qui n'ont jamais mis les pieds en banlieue. Enfin, c'est important pour la compréhension.
En tout cas, le vivre ensemble, c'est le principal argument de ces candidats au service national universel. Mireille Marisquier.
Le plus, c'est la mixité sociale. Moi, j'attends de voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai, comme disait Isabelle, au départ, c'était un grand projet qui s'est quand même réduit.
Mais pourquoi?
Parce que d'abord, ça coûte cher.
Exactement.
Ça coûte très cher.
Là, c'est quoi? C'est 2000 euros par jeune recrue pour cette phase de test uniquement.
Puis les militaires, au début, devaient assurer l'encadrement. Ils n'ont pas voulu. Très clairement, Emmanuel Macron s'est heurté aux très fortes réticences de l'armée qui se disait, on a autre chose à faire qu'effectivement faire du lien social. Pourquoi pas? Mais c'était pas la tâche des militaires. Donc, il a fallu changer d'autorité de tutelle.
Qu'ils étaient sous la tutelle des militaires, mais ils n'avaient pas vraiment un rôle militaire.
Voilà. Il n'y a plus d'infrastructure pour les loger depuis que l'armée n'existe plus. Donc, il a fallu réquisitionner des lycées, trouver des endroits. Donc, c'était un assez beau projet, mais c'est vrai qu'il s'est heurté à un certain nombre de difficultés pratiques. D'ailleurs, Gabriel Attal m'a raconté une anecdote qui m'a fait assez rigoler. Donc, ce sont des enfants de 16 ans qui vont dormir. Donc, il y aura des dortoirs. C'est posé la question de savoir comment devaient être les dortoirs. Évidemment, ils sont séparés. Il y a une association... ne sont pas mixtes. Et il y a une association.
C'est pas très Nouveau Monde alors.
Non, c'est pas très Nouveau Monde, mais il y a ça, c'est plus Nouveau Monde. Il y a une association d'adolescents transgenres qui ont demandé un rendez-vous à Gabriel Attal pour lui dire, mais pour ceux qui ne se considèrent ni garçon ni fille, est-ce qu'il y aura des dortoirs de transgenres? Voilà le genre de question qu'un certain nombre d'enfants.
Et alors quelle est la réponse?
Ah ben il a dit que non, qu'il y avait des réalités anatomiques, qu'on était soit un garçon, soit une fille, et que chacun irait.
Ah, il a répondu ça?
Ben je crois.
Je vous sens un peu déçu.
Oui, non, c'est étrange comme réponse. Vous êtes confiant ou pas sur le développement à venir? Est-ce qu'il y aura les crédits? Est-ce qu'il n'y aura pas les crédits?
Oui, mais ça peut de fait, je suis d'accord. Ça, il faut peut-être laisser le temps se faire. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on crée toujours quelque chose de nouveau plutôt qu'améliorer l'existant ou même voir par le biais des lycées professionnels ou encore une fois du service civique qui est quand même une belle réussite, je trouve, en termes de lien social. Donc voilà, je trouve ça dommage de créer quelque chose à côté et de pas essayer d'améliorer l'existant.
Le service civique, je trouve que c'est effectivement fantastique, mais c'est, à ma connaissance, c'est pas rémunéré, ça dure longtemps.
Il y a une petite rémunération.
Et donc, c'est quand même essentiellement pour des enfants de familles qui peuvent se l'offrir. Parce que, voilà, 6 mois, alors je ne sais pas quel est le niveau.
Non, mais justement, on aurait pu l'élargir en donnant un salaire plus important. Il y a un salaire, déjà.
Oui,
mais alors on aurait pu partir de là.
Pour le coup, ça aurait été cher pour la collectivité.
Oui, mais ça aurait peut-être coûté moins cher que ce qu'on est en train de faire.
Peut-être.
Mais moi, je trouve que le service civique a un avantage, c'est qu'il peut... Il peut proposer une formation, en fait. Parce qu'il y a des jeunes qui vont travailler dans des organisations humanitaires et qui peuvent trouver un job après. Je veux dire, puis il y a la mixité sociale, mais en même temps, il y a le boulot, il travaille, oui. Voilà. Et ce que je pense à propos du service national universel qui commence aujourd'hui, je pense que dans l'idée du gouvernement, c'est une expérience et qu'ils vont en tirer les conclusions au bout d'une année, ils vont voir. D'abord parce que ça va coûter cher, et puis voir les retombées, ce qu'il y aura, les retombées...
Voir si cette cohésion, ce vivre ensemble progresse.
Emmanuel Macron n'est pas un grand fanat de revenir sur sa parole.
Oui, mais...
Oh, il apprend.
À suivre.
Dans l'acte 2, peut-être.
On parle de politique après le rappel de l'info à 20h20 avec Lauriane Delanoë.
Des vergers et vignes ravagés par la grêle hier en Auvergne-Rhône-Alpes. Des récoltes totalement détruites. La FNSEA réclame ce soir sur France Info des avances de trésorerie pour sauver les exploitations en difficulté. Une patrouille de l'opération Sentinelle menacée par un homme armé d'un couteau aujourd'hui dans l'hôpital militaire de Lyon. L'un des soldats a tiré, l'agresseur blessé à la jambe. L'enquête est confiée à la police judiciaire de Lyon, une enquête pour tentative d'homicide. Un corps découvert sur la plage des Sables d'Olonne en Vendée la nuit dernière. Les autorités ne précisent pas pour l'instant s'il s'agit de celui du pêcheur disparu en mer il y a 9 jours en pleine tempête Miguel. Un militant pro-démocratie va être libéré demain à Hong Kong. L'ancien étudiant Joshua Wong en prison pour avoir mené la révolte des parapluies en 2014. Hong Kong où des centaines de milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui encore pour demander notamment la démission de la chef du gouvernement. Un dysfonctionnement dans un barrage électrique, hydroélectrique ce matin et voici l'Argentine et l'Uruguay paralysés par une panne d'électricité massive. Le courant rétabli dans près de 40% des foyers pour l'instant. Les footballeuses américaines qualifiées pour les 8e de finale de la Coupe du Monde, les championnes en titre viennent de battre facilement le Chili 3-0 au Parc des Princes. Cet après-midi, la Suède aussi a pris son ticket pour la suite de la compétition avec une large victoire, 5-1 face à la Thaïlande.
France Info. France Info, les informés, Noé Da Silva.
Les informés avec toujours Mireille Lemarisquier, Christelle Bertrand, Gilles Bornstein, Isabelle de Golemin. Alors le Rassemblement National est en route vers les municipales. Le RN sera partout, a dit Marine Le Pen. C'était lors du Congrès national à La Rochelle cet après-midi.
Il est sûr que vous aurez peut-être plus maillage dans des endroits, bien sûr, où nous sommes puissants électoralement que dans des endroits où nous sommes faibles électoralement. Mais ce qui est sûr, c'est que contrairement à ce que j'ai pu lire, aucun territoire ne sera laissé de côté. Aucun. C'est-à-dire que nous aurons des candidatures partout en France. Il est évident qu'on sera présent dans des villes moyennes, on sera présent dans des grandes villes, et on sera aussi présent d'ailleurs dans des petites villes, en fonction des implantations locales de nos cadres respectifs.
Gilles Bornstein, après le succès aux européennes, c'était évident que le Rassemblement national serait partout ?
Non. Non, c'est vrai que dans un premier temps, on avait cru comprendre que le Rassemblement national allait se concentrer dans des villes qui pouvaient gagner, ce qui, à mon sens, n'était pas complètement stupide, parce qu'avoir un conseiller municipal de ci, de là, ça sert strictement à rien. On voit que dans les grandes villes, ils font très souvent moins de 10, 7, 8, 5%. Enfin, le Rassemblement national est vraiment absent des grandes villes. En revanche, il est très présent, effectivement, dans les villes entre 10 000 et, disons, 50, 60 000 habitants. Il y en a un certain nombre qui peuvent gagner. Et donc, on avait cru comprendre qu'ils concentreraient leurs forces là-dessus. C'est pas facile de constituer des listes, hein. Il faut beaucoup de monde, il faut de l'argent. Encore une fois, pour gagner un ou deux conseillers municipaux, ça sert pas à grand-chose. Elle a quand même dit il y aura quand même des endroits, enfin on comprend entre les lignes qu'il y a des endroits où ils seront moins présents que d'autres, et c'est vrai qu'a priori leur stratégie c'était d'essayer de gagner des villes moyennes comme ils en ont déjà quelques-unes. Il y a une grande ville qui peuvent gagner, c'est Perpignan avec Louis Alliot. Voilà.
Il y a aussi cet appel qui a été lancé par Marine Le Pen lors de cette conférence de presse tout à l'heure, Christelle Bertrand, un appel aux Républicains. Mmh. Là aussi tout le monde s'arrache les Républicains.
Mais c'est ça, on voit bien que Marine Le Pen, elle est en train de mettre le pied dans la porte. Une porte s'est entrouverte lors des élections européennes, non seulement le score du Rassemblement National, mais c'est surtout le score des Républicains qui lui donne beaucoup d'espoir. Parce qu'elle voit ce parti se déliter, un côté d'une partie s'enfuit vers la République En Marche, mais une partie est tentée de rejoindre le Rassemblement National. On voit bien que Thierry Mariani a mis en place un petit parti pivot de manière à attirer les Républicains qui pourraient tenter de rejoindre Marine Le Pen, et c'est pour ça qu'elle est présente partout. C'est qu'il faut qu'elle tape fort, là, maintenant, pour attirer tous les militants, tous les électeurs qu'elle peut, tous les élus qu'elle peut. C'est maintenant qu'elle joue.
Et tous ceux qui sont opposés à Emmanuel Macron, Mireille Le Maresquier, c'est une stratégie payante ?
De la part de Marine Le Pen ? Ça, je ne sais pas, mais ce qu'il y a, c'est que c'est les municipales, c'est la préparation des présidentielles de 2022 pour le Rassemblement national, c'est ça.
Isabelle de Golemin. Cet appel aux Républicains, là aussi, c'est une stratégie. Les Républicains vont mal, elle en profite comme le fait de l'autre côté Emmanuel Macron.
Oui, en fait, je suis d'accord avec Mireille, elle voit un coup d'avant parce que, en fait, pour les municipales, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'élus de la droite classique.
Pour les européennes, on disait, c'est déjà les.
Oui, mais les municipales, les élus de la droite classique sont quand même bien implantés. Ils n'ont sans doute pas intérêt à voir leur parti disparaître. Et c'est de ça dont il s'agit. Donc, je pense que l'opération est sans doute moins gagnante que ce qu'elle pouvait donner pour les européennes. Puis, je trouve qu'il y aurait quand même quelque chose à enquêter. C'est pourquoi il y a tant d'élus ex-Front National, qui ont démissionné, des élus lors des dernières municipales, qui ont démissionné durant ce mandat. Il y a plus de 30%, c'est un vrai record. Donc, qu'est-ce que font les élus FN une fois qu'ils sont élus? À quoi est-ce qu'ils servent? C'est un peu comme pour les européennes. On s'est aperçu que les élus Front National des européennes, ils avaient surtout servi à engraisser le parti au niveau français. Donc voilà, il y aurait peut-être aussi un bilan à faire de ces élus et voir ce que recouvre vraiment cette implantation locale du Front National.
Vous avez enquêté, Gilles?
Non, mais les élus démissionnent parce que être conseiller municipal d'opposition, franchement, c'est pas très rigolo. Il n'y a aucune rétribution symbolique. Vous ne servez pas à grand chose dans un parti hyper centralisé où souvent le Rassemblement national a du mal à constituer des listes. Donc, on va chercher des gens qu'on attrape comme ça, qui savent pas très bien pourquoi ils sont là, et puis arriver élus au bout d'un an, deux ans, trois ans, ils sont déçus, ils se rendent compte que ça sert pas à grand chose, qu'ils n'ont pas tellement voix au chapitre, et puis comme ils étaient pas tellement faits pour ça, et bah, au fur et à mesure du temps, ils s'en vont.
Le congrès de La Rochelle aujourd'hui a aussi vu la nomination de Jordan Bardella, 23 ans, qui était tête de liste aux élections européennes. Il est nommé vice-président. C'est important, 23 ans, Christelle Bertrand.
Oui, mais elle essaye de donner une autre image au parti. Il a fait une très bonne campagne. Hein, le score qu'il a réalisé est exemplaire pour le Rassemblement national. Donc, elle installe à côté d'elle un jeune homme qui donne une image différente du parti. Elle montre qu'elle est capable de s'ouvrir, qu'elle n'est pas l'unique chef, ce qu'on lui a beaucoup reproché, hein, que tout procédait d'elle. Que c'était la famille Le Pen, que le Front National ne tenait que sur ce nom-là. Donc elle essaye de mettre en avant quelqu'un de différent, qui en même temps ne contestera pas son autorité parce qu'il est jeune. Donc voilà, c'est...
Contrairement à Marion Maréchal.
Contrairement à Marion Maréchal, qui essaye de revenir au devant de la scène politique.
Gilles ?
Oui, j'ai un point de désaccord, c'est que d'abord, la place de numéro 2 au Rassemblement National est vraiment une place très dangereuse, parce qu'elle en a consommé beaucoup. Elle en a consommé beaucoup,
ouais.
Nicolas Bay, voilà. Et donc là, Jordan Bardella, bon, on sent que c'est pour dire à tous les autres, tous ceux qui... Il a 23 ans, 24 ans, il est vraiment très très jeune, pour dire à tous les trentenaires, bah voilà, j'ai pas besoin de vous, j'en ai trouvé un plus jeune que vous, mais... En revanche, ce qui est vrai, c'est que c'est un nouveau Rassemblement National, un jeune venu de banlieue qui vraiment contraste totalement, pour le coup, avec le Rassemblement National de son père.
On ne bouge pas, les informés continuent jusqu'à 21h. A tout de suite.
France Info Trafic, avec la carte Carburant Carrefour pour les flottes de véhicules professionnels. Plus d'infos sur carte-carburant.carrefour.fr.
C'est le retour de week-end pour certains. On a des difficultés aux entrées de Paris, Kevin Dufraîche.
Oui, parce que vous êtes nombreux à rentrer de week-end. Effectivement, d'abord par l'est sur la 4 à partir de Villiers-sur-Marne. Il faut plus d'un quart d'heure pour aller de Villiers-sur-Marne, donc à la porte de Bercy. Sur la 6, en venant du sud, il y a des travaux, un rétrécissement de voie notamment, ce qui donne une demi-heure de ralentissement avant d'entrer dans la capitale. Enfin, au nord, sur l'autoroute A1, il vous faut plus de 10 minutes pour aller de la Courneuve à la Porte de la Chapelle pour seulement 3 petits kilomètres.
Restez connectés à France Info.
Toute l'actualité, des alertes, des vidéos avec l'application mobile
France Info.
Le temps de notre lundi avec vous Jean-Michel Golinski.
Pratiquement que du beau fixe demain sur la totalité du pays, avec tout de même un risque d'averse signalé l'après-midi sur les Pyrénées et d'orage sur les Alpes frontalières, mais le soleil est souvent très vaillant, va rapidement chasser les bancs de grisaille du début de la matinée et faire place à une ambiance quasi estivale, d'autant plus que les températures vont partout bien remonter, avec une bonne vingtaine de degrés près de la Manche. Le maximum absolu sera de 33 pour les terres provençales. Il est prévu 25 à Rennes et Lille, 27 sur le centre Val-de-Loire, le bassin parisien et l'Alsace, 28 en Rhône-Alpes, 29 sur le Limousin, 30 à 31 sur les Charentes, les rives de la Garonne et dans le golfe du Lion. Et mardi, les valeurs vont globalement afficher 2 à 3 degrés supplémentaires.
Merci d'écouter France Info. Bon début de soirée. Il est 20h30.
France Info.
Deux points. Ouvrez l'info.
L'info avec Emmanuel Langlois.
Le syndicat agricole FNSEA qui réclame des avances de trésorerie pour les exploitants de la Drôme après les violents orages de grêle d'hier. Les dégâts sont énormes. Certains producteurs de fruits ont tout perdu en quelques minutes. Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, s'est rendu sur place. Il promet que l'état de catastrophe naturelle sera pris dans les deux jours. Des centaines de vignes, notamment, ont été détruites sur le vignoble d'Apremont en Savoie. En Haute-Savoie, maintenant, un drame à Taninges qui ont, suite à ces tempéries ont fait un mort, une femme de 51 ans morte écrasée par un arbre sur le terrain du camping municipal où elle se trouvait. La mairie de Taninges avait pourtant entrepris des travaux d'élagage pas plus tard que la semaine dernière pour sécuriser le camping. Hervé Raffin est adjoint au maire de Taninges.
Quand on a vu la tempête qui arrivait de Cluse, la dame qui est régisseur du camping est passée pour prévenir un petit peu les gens comme quoi il allait avoir une tempête et qu'on avait un risque de grêle. C'est surtout ça qu'on craignait. Mais on n'imaginait pas qu'il allait avoir une tornade aussi violente. C'était vraiment imprévisible. On avait rarement vu ça sur Taninges. Et on a malheureusement une dizaine d'arbres qui se sont déracinés. Des pins de 15 à 20 mètres de haut et... Les arbres étaient sains, voilà. Et hélas, l'un d'entre eux est tombé à côté d'un van où les gens étaient en train de s'installer. Et la dame qui ressortait de son camping-car à ce moment-là a été prise sous les branches de l'arbre qui est tombé tout à côté de son camping-car.
Hervé.
Donc, imprévisible.
Hervé Raffin, l'adjoint au maire de Taninges, en Haute-Savoie. Trois hommes en garde à vue pour violence aggravée à Strasbourg. Ils ont été arrêtés hier soir pour avoir proféré des insultes homophobes et brûlé un drapeau arc-en-ciel à la fin d'une marche des fiertés qui a rassemblé environ 6000 personnes. Il a conduit la liste du Rassemblement National aux élections européennes, dont il est sorti vainqueur à 23 ans. Jordan Bardella a été promu aujourd'hui deuxième vice-président de son parti. Parti réuni à La Rochelle pour son congrès. Conseil national et pour se lancer aussi dans la bataille des municipales l'an prochain. À l'étranger, après les États-Unis et la Grande-Bretagne, l'Arabie saoudite incrimine à son tour l'Iran dans l'affaire des attaques en mer d'Oman. Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salma affirme qu'il réagira à toute menace. Les deux pétroliers endommagés ont eux été mis en sécurité. Le mondial féminin de football, les États-Unis et la Suède valident leur billet pour les huitièmes de finale. Les deux équipes s'affronteront jeudi au Havre pour la première place du groupe F. Un résultat qui déterminera aussi l'équipe qui pourrait se dresser sur le chemin de la France lors d'un hypothétique quart de finale. Et puis après 6 échecs en finale, Adrian Manarino lui remporte le premier titre de sa carrière. C'était tout à l'heure à Hertogenbosch aux Pays-Bas. Le Français l'emporte en finale contre l'Australien Jordan Thompson. 20h33, les informés, ça continue.
France Info, les informés, Noé Da Silva.
La suite des informés, merci d'être avec nous et bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info, à la radio et à la télé sur le canal 27. Avec nous toujours autour de la table, Mireille Lemaresquier, journaliste, ancienne chef du service monde de France Info, Christelle Bertrand, journaliste politique au groupe La Dépêche, Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Télé, Isabelle de Golemin, rédactrice en chef au journal La Croix. La République En Marche doit donc annoncer demain quelques têtes de liste pour les élections municipales. Le parti est-il en déroute avant ces élections qui auront lieu l'année prochaine? À Paris, les candidats sont divisés. Certains réclament une primaire. Écoutez la réaction de Gilles Legendre sur France Info. C'est le patron du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale.
Halte au feu. Je trouve que l'affaire est en train de prendre un très vilain tour. Ça ne me plaît pas du tout.
C'est quoi? C'est donc aux adversaires de Benjamin Griveaux que vous adressez?
Je m'adresse à tout le monde. Je trouve d'ailleurs, et je ne suis pas le seul, les marcheurs de la capitale trouvent aussi que c'est en train de prendre un vilain tour. Notre mode, nous avons tout à fait la possibilité de gagner Paris, mais à une condition, c'est que nous soyons constamment rassemblés jusqu'à l'élection.
Gilles Legendre, ce midi, chez nos confrères de France 3, halte au feu. C'est fort, Christelle Bertrand, non?
Non. Si. Pour La République En Marche, c'est fort parce qu'on ne parle pas comme ça habituellement. Même en off, ils ont du mal à dire que ça se passe mal. Donc en on, ce type d'aveu est rare quand même dans leur bouche.
Oui, non, je parlais du off. Off, ils expliquent que c'est la guerre quand même là. Ah, c'est vraiment la guerre.
Certains le disent ça, mais sur la pointe des pieds quand même.
Ce que je veux dire, c'est qu'il manie beaucoup la langue de bois,
c'est ça que je veux dire, en fait.
Une affaire qui prend un train
vilain
tour.
Mais oui, parce que normalement, dans ce parti, on nomme quelqu'un, c'est le souhait du chef, on ne le conteste pas. Et là, on a des candidats qui demandent des primaires. Donc ça implique un débat interne, ça implique...
En fait, les candidats qui sont face à Benjamin Griveaux réclament une primaire aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'ils s'agitent?
Il s'agite parce que Benjamin Griveaux n'est pas un très bon candidat à leurs yeux. Et une partie des marcheurs considère que ce n'était pas la bonne personne à mettre à ce poste-là. Donc il fait une campagne... il fait pas une très bonne campagne pour le moment. Il est extrêmement contesté en interne. Donc certains se disent qu'il réussirait mieux à sa place et que La République En Marche risque de perdre Paris parce qu'ils n'ont pas le candidat idoine. Alors certains auraient rêvé d'Edouard Philippe. Je pense qu'il a fermé la porte. Mais en tous les cas, Benjamin Griveaux ne fait pas l'unanimité aujourd'hui, loin de là.
Gilles Bornstein, Benjamin Griveaux, il leur répond ce soir. Les règles étaient connues. Si vous n'étiez pas d'accord avec ces règles-là, il fallait le dire avant.
Absolument. Donc Benjamin Griveaux dit il y avait des règles. Nous, on ne s'est pas bâti avec des primaires parce qu'on considère que les primaires, c'est l'ancien monde, c'est le Parti Socialiste où il y avait un semblant de démocratie, mais finalement, il n'y avait que des écuries. La vérité, c'est que Benjamin Griveaux veut être maire de Paris. Il a des adversaires qui ne le veulent pas. Si il faisait l'unanimité, ça se serait vu. Si Emmanuel Macron avait voulu le soutenir publiquement, ça se serait vu. C'est comme Nathalie Loiseau. Il a espéré, Emmanuel Macron, jusqu'au dernier moment, trouver une meilleure candidate que Nathalie Loiseau pour les européennes. Il ne l'a pas trouvée. De quoi a peur Benjamin Griveaux? Tous les matins, Benjamin Griveaux, il se réveille en disant « pourvu qu'il ne trouve pas quelqu'un qui puisse faire l'affaire ». C'est vrai qu'Edouard Philippe...
Edouard Philippe revient souvent.
Mais Edouard Philippe, il est Premier ministre. Il a plutôt réussi ses élections. On dit qu'il a plutôt envie de rester à Matignon. Donc, le danger aurait plutôt tendance à s'éloigner. Après, effectivement, si effectivement la désignation est repoussée et que la rentrée se passe mal, Édouard Philippe, en octobre ou en novembre, pourra toujours vouloir Matignon. Mais Benjamin Griveaux a peur que quelqu'un tape dans l'œil d'Emmanuel Macron et qu'il trouve que c'est un meilleur candidat que lui. Parce que la vérité, c'est que si Emmanuel Macron était persuadé que Benjamin Griveaux est le meilleur candidat, il ne nous l'aurait déjà fait savoir. Alors vous, je sais pas, mais moi, je ne l'ai jamais entendu dire que Benjamin Griveaux avait sa préférence. Et les autres, c'est l'inverse. C'est-à-dire, les autres, ils se disent, bah voilà, chaque jour de gagné est un jour gagné pour nous.
Vous dites pourvu qu'il n'y ait personne d'autre qui tape dans l'œil d'Emmanuel Macron. Il y a Agnès Buzyn qui a taclé Anne Hidalgo. Alors, est-ce qu'elle entre en campagne sur la politique de lutte contre la pollution? Elle a dit, en tous les cas, moi, j'ai été déçu quelque part de cette politique que j'ai trouvée très tournée vers le tourisme, l'accueil et les festivités, a dit la ministre de la Santé, qui affirme qu'elle votera quand même pour le candidat de la République en marche en 2020. Isabelle de Golemin.
Oui, c'est vrai, ce qui est toujours intéressant, c'est que vous ne trouvez quasiment personne à En Marche qui vous dise que Benjamin Griveaux est quelqu'un, est le bon candidat. Donc, c'est sûr qu'il a beaucoup de gens contre lui, et puis il a un peu ce profil quand même assez techno, assez froid, qui, à mon avis, n'en fait pas un très bon candidat. Après, de manière plus générale, c'est quand même très important pour La République En Marche de réussir ses municipales, parce que c'est vraiment ça qui lui manque. C'est un nouveau parti qui n'a aucune implantation locale, et on l'a bien vu au moment des Gilets jaunes. Hein.
C'est un mouvement.
Oui, un mouvement, n'empêche qu'ils sont en train de se constituer.
C'est ce qu'on m'a répondu hier, on a abordé le thème dans Les Informés, et après, on m'a fait parvenir des infos comme quoi, oui, on n'est pas vraiment un parti, c'est un mouvement, donc l'organisation est un peu différente.
Oui,
mais là,
quand
on voit la contestation aussi de 6 députés du Nord qui ont écrit au secrétaire général pour dire il y a de la rétention d'informations, on n'est pas bien au courant de comment ça se passe, Gilles.
C'est un parti stalinien, faut dire. Mais c'est un parti où il n'y a pas de démocratie interne. C'est un parti qui s'appelle EM, En Marche Emmanuel Macron, qui a été créé par et pour Emmanuel Macron. Ça a fantastiquement bien fonctionné pour les présidentielles. Personne n'y croyait. Ça a très bien fonctionné. Bon, maintenant, il faut diffuser ça pour des élections. C'est vrai que c'est un parti sans démocratie interne et c'est un parti extrêmement centralisé, avec des référents désignés. Il n'y a pas de premiers fédéraux comme dans n'importe quel parti. Il y a des référents désignés par le centre. C'est pas vraiment un parti avec une tradition démocratique.
C'est là où je trouve que le parallèle que vous faisiez tout à l'heure avec Nathalie Loiseau est intéressant, c'est qu'en fait, ce sont les premières campagnes électorales de ce parti. Donc Emmanuel Macron a fait une campagne formidable. Derrière, les députés n'ont pas eu à faire campagne. Et Nathalie Loiseau était la première à devoir faire campagne avec le résultat qu'on connaît.
Elle a eu des difficultés d'ailleurs à Bruxelles. Elle ne prend pas la tête du groupe centriste. Alors qu'il y a le
parce qu'elle a fait un off avec des journalistes qui a évidemment fuité, parce que les journalistes étaient nombreux autour de la table.
Ça vous
et où elle critique.
Qui l'a côtoyé.
Elle a gaffé,
Estelle.
En fait.
Elle a critiqué elle Merkel.
Elle a fait ça pendant toute la campagne. Hein.
Mais elle était en France.
On perlait sa
campagne. Le problème, c'est qu'elle est à Bruxelles et qu'à Bruxelles, on ne parle pas comme ça.
Tout à fait.
Donc, ce qui est bizarre, c'est qu'elle connaît Bruxelles. Elle était pourtant bien placée pour ça.
Mais je crois qu'elle ne peut pas s'empêcher de parler et qu'elle ne se rend pas compte que quand il y a 7 ou 8 journalistes, ce qu'elle raconte, ça va sortir.
C'est extrêmement grave, parce qu'Emmanuel Macron tenait énormément à avoir la présidence de ce groupe. Il nous l'avait dit lorsqu'on l'a interviewé, nous les représentants de la presse quotidienne régionale, il a dit « c'est extrêmement important pour moi de recréer, en fait, ce que j'ai réussi en France, de le recréer en Europe ». Et là, pour des petites phrases, la France perd la présidence de ce groupe, et je pense qu'il ne devait pas en être ravi.
20h40, Les Informés continuent. On n'a pas beaucoup entendu Mireille Le Marisquier sur La République En Marche, mais elle se réserve pour évoquer Hong Kong dans un instant. Mais avant cela, le rappel de l'info. Lauriane Delanoë.
Un bon repas et au lit. Le bac de philosophie, c'est demain. La première épreuve écrite pour les élèves de terminale. Des enseignants menacent de faire une grève de la surveillance pour dénoncer la réforme des lycées. Le gouvernement assure que tout se passera bien. Une touriste allemande tuée hier dans un camping de Haute-Savoie. Les arbres tombés étaient sains, c'était imprévisible, assure aujourd'hui la mairie de Taninges. La grêle dévastatrice qui a ravagé les récoltes dans des vignes et vergers de la Drôme, la Savoie et la Loire. L'état de catastrophe naturelle et celui de calamité agricole devraient être reconnus dans les tout prochains jours. Un homme blessé à la jambe par le tir d'un soldat aujourd'hui devant l'hôpital militaire de Lyon. Il menaçait une patrouille de l'opération Sentinelle avec un couteau. L'agresseur a ignoré les sommations pour s'arrêter. Le parquet lyonnais ouvre une enquête pour tentative d'homicide volontaire. La première apparition publique du président déchu du Soudan, Omar El-Béchir, en djellaba traditionnelle blanche, aujourd'hui conduit au parquet de Khartoum, encadré de militaires lourdement armés. Il est accusé notamment de corruption et pourrait être jugé très prochainement pour ces faits. À 30 ans, Adrian Manarino remporte le tout premier titre de sa carrière. Le joueur de tennis français s'est imposé cet après-midi en finale du tournoi ATP de Sertogenbosch aux Pays-Bas. Caroline Garcia, de son côté, a gagné sa finale à Nottingham, le 7e trophée de sa carrière.
France Info. France Info, les informés, Noé Da Silva.
Les informés avec toujours autour de la table Mireille Lemarisquier qui n'en peut plus, Christelle Bertrand, Gilles Bernstein, Isabelle de Golemin. C'est bientôt à vous Mireille. 2 millions de manifestants dans les rues de Hong Kong aujourd'hui. Énorme succès de la mobilisation contre un projet de loi qui a pourtant été suspendu hier. Pourquoi continuer de manifester? Écoutons la réponse de cet habitant de Hong Kong.
Si vous suspendez le projet de loi, vous pouvez le relancer à tout moment. Maintenant, le gouvernement veut simplement nous calmer et nous faire baisser notre garde. Si nous ne sortons pas aujourd'hui, et si le gouvernement voit que nous ne sommes pas déterminés, il pourrait remettre le projet sur la table.
Mireille Lemarisquier, vous n'êtes pas surprise par le fait qu'il y ait eu plus de manifestants que lors de la dernière manifestation, il y avait 1 million de personnes dans les rues.
Il y avait 1,3 million et aujourd'hui, selon les organisateurs, il y en a 2 millions. Ben, c'est des gens qui lâchent rien. Ils ont compris qu'on était en train de les calmer en leur disant on suspend le projet. Alors je rappelle que le projet de loi visait à l'extradition, c'est-à-dire qu'on ramène de Hong Kong à Pékin pas seulement les criminels mais surtout les opposants politiques, les dissidents. Et donc ce qu'ils veulent, ce qu'ils demandent, et c'est pour ça qu'ils sont dans la rue aujourd'hui, c'est le retrait définitif de ce projet de loi et la démission de la présidente du conseil exécutif qui gouverne Hong Kong, Carrie Lam, qui est là depuis 2 ans, qui a été élue par, nommée par un comité pro-Pékin, hein, donc c'est clair. Et je pense que demain, il y a une grève générale aussi à Hong Kong qui a été décidée. Donc ils vont jusqu'au bout.
Donc ça ne va pas s'arrêter là?
Non, ça ne va pas s'arrêter.
Et c'est intéressant. Si le projet est complètement arrêté, stoppé, est-ce que ça arrête les manifestants?
Ils veulent la démission de toute façon de Carrie Lam, ils la veulent. Et l'autre chose, c'est que c'est un message très clair à Pékin, c'est on ne veut pas de mainmise de Pékin sur Hong Kong. C'est un pays, deux systèmes. Quand il y a eu la rétrocession de Hong Kong en 99 à la Chine, c'est c'était établi, voilà. Mais c'est extraordinaire sur le plan international parce que c'est un camouflet mais terrible pour le président chinois Xi Jinping qui va se retrouver à un G20 dans 10 jours. Avec Trump qui a dit qu'il allait lui parler de Hong Kong, mais c'est pas seulement ça, c'est que bon la peur de Xi Jinping, c'est que les Chinois voient ce qui se passe à Pékin et se disent eux ils font bouger les choses, voilà.
Gilles Bernstein.
Pardon, à Hong Kong, eux ils font bouger les
choses.
Qui
veut prendre la parole derrière Mireille Lemarisquier? Isabelle de Golemin.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que quand effectivement il y a eu cette signature de le nouveau système, un état de système, il y avait 3 choses qu'on avait garanties à Hong Kong. C'était le pluralisme politique, le système juridique et puis la monnaie. Et là, c'est vraiment le système juridique qui était en cause. Donc, ce qu'on voit bien, c'est que la population de Hong Kong, elle dit OK, on va pas faire bouger le gouvernement chinois sur la Chine, mais par contre, on veut pas qu'ils viennent bouger notre système à nous. Hein. C'est vraiment ça qui est important. Et ce qui est aussi intéressant, me semble-t-il, c'est que les milieux d'affaires sont plutôt pour les gens qui sont dans la rue. C'est-à-dire que d'abord, il y a beaucoup d'expatriés à Hong Kong et de gens qui ont peur que cette nouvelle loi chinoise s'applique à eux. Et puis, pour les affaires, on a besoin de stabilité. Et donc, je pense qu'ils sont aussi du côté des manifestants.
Donc oui, parce que Hong Kong, c'est quand même la vitrine.
Il y a une pression économique aussi.
Oui, oui, c'est la vitrine financière de la Chine. Hong Kong. Donc, il y a des banquiers qui sont dans la rue, il y a des hommes d'affaires, moins qu'avant, mais toujours, je veux dire, il y a des multinationales qui sont à Hong Kong. C'est la bonne vitrine, je veux dire, la bonne présentation de la Chine pour l'international, pour Monsieur Xi Jinping.
La chef de l'exécutif de Hong Kong, elle a fini par faire des excuses.
Oui, alors elle a fait des excuses aujourd'hui pour avoir provoqué, je cite, des querelles et des conflits. Parce que quand même, lorsqu'il y a eu 1 300 000 manifestants, elle les a traités d'émeutiers, des émeutiers. Voilà. Donc elle a fait des excuses et elle a dit qu'elle était prête à discuter, que le texte avait été mal préparé. Voilà.
Et la Chine, elle a dit quoi?
Alors la Chine, c'est assez intéressant parce que la presse chinoise ne parle pas de ce qui se passe à Pékin. Sauf le quotidien du peuple, oui, sauf le quotidien du peuple qui a dit que c'était, il y avait un texte qui avait été mal préparé, mais que bon, on n'en parle pas beaucoup. Et puis, Xi Jinping, il laisse au devant de la scène la présidente du Conseil exécutif parce qu'il veut pas s'en mêler, il veut pas surtout se discréditer aux yeux de l'opinion internationale.
Voilà. Gilles Bernstein.
Non, moi, je suis pas vraiment pas du tout un spécialiste de la question, mais je trouve ça assez vertigineux sur l'évolution de la Chine parce que comme vous tous, je me rappelle de la rétrocession en 97, c'est ça, quand Chris Kattan est parti. Et donc, on sortait des années d'Aung San Suu Kyi, on se disait qu'il y avait peut-être une certaine ouverture de la Chine, que l'arrivée du capitalisme, que la prospérité allait provoquer, allait donner plus de liberté. Bon, on a tous été d'une
l'économie de marché, disait-on.
Voilà, que l'économie de marché allait donner plus de liberté. Bon, on a été tous d'une grande naïveté parce que, encore une fois, je suis pas un spécialiste, mais j'ai l'impression que quand même Xi Jinping, c'est en gros l'équivalent de Mao et que la Chine n'a jamais été aussi totalitaire et autoritaire que jamais, et que donc, finalement, il s'est passé exactement l'inverse que ce que certains nous avaient promis.
Mireille. Alors, j'ajoute à ce que dit Gilles, c'est que Xi Jinping est élu et est là au pouvoir depuis 6 ans, mais l'année dernière, il a fait passer une loi, enfin un décret-loi, parce que c'est en Chine, c'est pas tout à fait comme chez nous, sans limite, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite au nombre de mandats que peut faire
et
un président.
Et sa pensée fait partie de la Constitution, ce que seul Mao avait eu jusqu'à présent.
Exactement.
Je voudrais, avant de passer au rappel de l'info avec Lauriane qui va nous rejoindre dans un instant, évoquer une interview aujourd'hui. Vous avez tous lu le journal du dimanche. Laurent Ruquier, l'animateur de France 2, qui dénonce la dictature des réseaux sociaux. Il parle de dictature de Twitter et de Marlène Schiappa. Il y va fort, il a raison, ou c'est un lapin de 6 semaines qui découvre les réseaux sociaux?
Franchement, c'est l'arroseur arrosé, hein, parce que l'économie de son émission reposait d'ailleurs toujours sur la polémique qui fait ensuite du buzz, etc. Mais c'est vrai que moi, alors personnellement, j'ai eu la chance, entre guillemets, de participer à cette émission à propos de Notre-Dame, et c'est très impressionnant parce que vous êtes pris le lendemain dans une espèce de spirale de réseau de Twitter où vous êtes insulté, mais il faut voir le niveau des insultes sur Twitter, effectivement. J'avais jamais eu ça. Je me suis retrouvée insultée de manière absolument abominable. Donc, effectivement, moi, je comprends son ras-le-bol de Twitter, mais c'est quand même lui qui a d'abord créé ça. Donc voilà, finalement, il a que ce qu'il mérite quelque part.
Arroseur arrosé, Christelle Bertrand.
Nous, ce qui est intéressant, c'est qu'il critique la violence des propos qui peuvent être tenus sur Twitter, et lui-même est assez violent envers Marlène Schiappa. Donc,
c'est chroniqueur surtout. Lui est souvent.
Non, mais lui, dans l'interview, là.
Il parle de Twitter comme dictature et Marlène Schiappa.
Voilà.
Bon, Gilles Bernstein, il va pas prendre position.
Non, si, moi, je peux dire une chose sur, j'ai pas d'avis particulier là-dessus. Je trouve que il était de bon ton de critiquer Laurent Ruquier à un moment. Je sais que pour fréquenter les politiques quotidiennement, il disait, il y a encore un an, 12 ans, il disait, 2 ans, c'est quand même une émission, quand on y va, on peut parler 20 minutes. Réellement aller au fond des choses sans être interrompu. Alors d'accord, faut accepter de parler avant une porn star et après un rappeur, mais que pendant le quart d'heure ou les 20 minutes où on parlait, c'était un niveau relativement correct d'interview.
Bon, la transition avec Lauriane Delanoë est pas facile, mais c'est le rappel de l'info. Lauriane Delanoë.
Des centaines d'hectares du vignoble d'Ampremont en Savoie détruits par la grêle hier. Certains vignerons ont perdu toute leur récolte à venir. Pareil pour des agriculteurs de la Drôme. Le ministre Didier Guillaume promet la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle d'ici 2 jours. À l'appel de Marine Le Pen aujourd'hui, la présidente du Rassemblement National se dit prête à discuter avec les électeurs des Républicains et avec tous ceux qui contestent Emmanuel Macron. Elle veut créer des plateformes d'action commune en vue des élections municipales. Un enfant de 3 ans meurt noyé dans un canal. Aujourd'hui, il se promenait avec sa famille à Mias, dans les Pyrénées-Orientales. Le garçon tombé dans l'eau, il a été happé par une buse à un tuyau d'évacuation. Une coupure totale d'électricité ce matin en Argentine et en Uruguay. Certaines régions du Brésil et du Paraguay également concernées par cette panne. Elle est due à un dysfonctionnement côté argentin. Le courant rétabli pour l'instant dans la moitié des foyers. Nous travaillons le plus rapidement possible, assure le président Mauricio Macri. L'épouse du premier ministre israélien reconnue coupable de mauvais usage de fonds publics, près de 85 000 euros pour des repas. Sarah Netanyahou a passé aujourd'hui un accord avec la justice. Les rugbymen de Toulouse au balcon de la mairie pour exhiber leur bouclier de Brennus. La liesse cet après-midi, place du Capitole, des milliers de supporters euphoriques venus pour fêter la 20e victoire du club en finale du top 14. C'était hier face à Clermont.
France Info. France Info, les informés, Noé Da Silva.
Voilà, et pardon à Lauriane Delanoë, bien évidemment. La suite des informés avec toujours nos invités Mireille Lemaresquier, Christelle Bertrand, Gilles Bornstein, Isabelle de Golemin. Et à 20h50, c'est l'heure de retrouver les cartes blanches du dimanche soir. Mireille Lemaresquier, vous nous emmenez en Algérie.
Ah, c'est mon coup de cœur.
Oui, votre coup de cœur, votre carte blanche.
Mon coup de cœur, c'est la société civile algérienne qui manifeste depuis la fin février, généralement sans violence, qui a obtenu le départ de non seulement 20 ans de Bouteflika, mais des dirigeants, des leaders, des responsables économiques, tous les corrompus sont en train de passer devant les tribunaux, et qui a décidé hier, parce que c'est très important, hier il y a une réunion d'une confédération de 70 associations et de 20 syndicats, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se structurer pour obtenir ce qu'ils demandent, c'est une transition de 6 mois à 1 an, pour organiser des élections avec un comité qui sera chargé d'organiser ces élections. Donc ils sont en train de passer à ce qu'ils veulent être la deuxième révolution algérienne. Et je dis chapeau à ces gens qui sont dans la rue depuis 5 mois.
Chapeau à ces manifestants. Après l'Algérie, Isabelle de Golemin, vous nous emmenez au Ghana et en Côte d'Ivoire.
Oui, pour vous parler de cacao. Parce que ces deux pays ont décidé de ne pas vendre la fève de cacao en dessous d'un certain prix qu'ils ont fixé à 2300 euros la tonne. Et c'est intéressant, c'est la première fois qu'ils font ça. Parce que ça sert simplement à garantir un certain revenu aux producteurs de cacao, aux petits agriculteurs, parce que le monde est fait de telle manière que la demande pour le chocolat ne cesse de croître, le prix auquel vous achetez votre chocolat ne cesse de croître, et le revenu des petits paysans au Ghana et en Côte d'Ivoire, lui, ne cesse de diminuer. Alors, c'est aussi dû parce que ces pays sont mal organisés, mais peut-être que si ça pouvait permettre un peu ce coup de gueule de ces deux pays producteurs qui font l'essentiel de la production de cacao, ça pouvait permettre aux gens qui fabriquent le chocolat de vérifier que la filière est bien éthique et finalement de ne pas prendre tout pour eux, parce qu'actuellement 6% du prix de vos tablettes de chocolat va aux agriculteurs africains, c'est tout. Et ben, ce serait peut-être 6%. Une bonne chose.
Gilles Bornstein, vous, votre carte blanche pour Hervé Brusini,
oui,
qui
c'est
est un confrère.
Voilà, c'est beaucoup plus personnel et corporatiste, si je puis dire. Hervé Brusini qui part à la retraite cette semaine, que les auditeurs et téléspectateurs de l'émission ont vu lundi ou mardi quand il est venu présenter le fantastique documentaire qu'il a fait pour les 70 ans du journal télévisé. Dans ce métier, il y a beaucoup de gens professionnels, il y a des gens qui ont du savoir-faire, il y en a beaucoup, mais des gens qui ont vraiment du talent, un vrai talent, il n'y en a pas énormément. Hervé en a, il a inventé La Marche du siècle, l'émission de Jean-Marie Cavada. Ça paraît, inventer une émission, c'est pas facile, hein. Inventer vraiment un concept, c'est pas facile. On réfléchit tout le temps, on n'en trouve pas beaucoup. Lui, il l'a trouvé, c'était la première émission où effectivement il y avait à la fois du reportage, du talk show, des invités, du plateau, du terrain, où il y avait absolument tout ça. Et puis Hervé, je sais pas si vous vivez ça, mais on est tous assez rapidement dépassés par les nouvelles technologies, par le monde qui change, par les petits jeunes qui nous poussent. Et Hervé, donc, qui a l'âge de partir à la retraite cette semaine, a été un des premiers à s'intéresser à l'arrivée du net, des nouvelles technologies dans le métier. Et en plus, il est super rigolo, on se marre bien avec lui. Et demain matin, il ne sera plus au bureau et ça sera moins rigolo.
Alors, on embrasse Hervé Brusini. Il est le bienvenu ici. S'il veut devenir informé, qu'il nous rejoigne. On lui souhaite une bonne retraite. Il a été rédacteur en chef également du journal de 20h et il en a beaucoup parlé cette semaine. Christelle Bertrand, votre carte blanche ce soir.
Maman, mon coup de cœur va, c'est pas très original, mais à l'équipe féminine de foot. J'attendais personnellement pas grand-chose de ce mondial. Et en fait, ce qui se passe autour de cette équipe féminine, je trouve ça assez formidable. Assez formidable parce que on découvre que c'est quand même très agréable de voir jouer des gens qui ne sont pas surpayés, qu'on n'a pas ce malaise assez étrange à voir courir des types pour 3 millions d'euros.
Surtout des joueurs qui ne font pas la comédie quand ils tombent.
Ça n'est pas violent. Il y a une ambiance formidable. C'est une Coupe du Monde très familiale.
On voit des gamins regardés à la télévision quand même, plus que les hommes.
Et ce qu'on se disait, c'est que le premier match va être suivi parce que c'est l'effet de surprise. En fait, le second l'a été encore plus. Demain soir, on verra bien, mais quelque chose se passe, une histoire est en train de se tisser, et je trouve que ce succès fait avancer l'égalité entre femmes et hommes de façon fulgurante, sans doute de manière très différente, mais autant que MeToo.
Surtout si les petites filles pourront ensuite jouer au foot dans la cour de l'école, si elles ont le droit de jouer avec les garçons, ça aussi sera une avancée dans certaines écoles. La une de La Croix demain, notre partenaire Isabelle, c'est une une consacrée au bac.
Au bac, ou plus exactement à la dissertation, qui est un art très français. Dans les autres pays, même européens, on n'apprend pas aux élèves à disserter. Donc qu'est-ce que ça dit de nous, de notre manière de penser, d'un certain esprit français ?
Voilà, la dissertation, une épreuve, c'est demain à la une du journal La Croix. L'invité de 8h30 demain matin sur France Info, Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, qui répondra aux questions de Marc Fauvel et Renaud Dely demain matin à 8h30. Merci à nos informés ce soir, Mireille Lemaresquier, Christelle Bertrand, Gilles Bornstein, Isabelle de Golemin. Merci à tous demain à 20h, Jean-François Aquili pour les informer. Bonne soirée.